Bonjour, bonjour. Je m'appelle Amy Gail Gagné et je suis votre chamane. Je vais vous annoncer tout de suite le thème de cet épisode-ci, en fait. Il s'agit de comprendre que l'année 2018, c'est votre année. Et vous savez, on a l'habitude de penser à ça au nouvel an. À chaque nouvel an, on se dit, on prend des résolutions, on s'imagine ce qu'on pourrait faire pendant cette année-ci, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut laisser de côté. Le nouvel an est un beau rituel que plusieurs personnes ont naturellement, où on va prendre le temps de se demander qu'est-ce qui a été utile dans nos comportements, dans les outils qu'on a utilisés, même nos amitiés, nos relations, nos fréquentations. Qu'est-ce qui nous a servi et qu'est-ce qu'on veut accueillir? Qu'est-ce qui peut changer pour la prochaine année? Comment est-ce qu'on peut progresser? Alors, toute personne qui a une vision de progression et de croissance personnelle va avoir tendance, je crois, naturellement à tendre vers ce genre de questionnement ou de réflexion quand le nouvel an arrive. Bien, je vous ai fait un épisode justement pour le nouvel an qui portait sur la numérologie. J'avais pris le temps de vous parler de la numérologie de l'année personnelle de chaque personne et je vous avais parlé un petit peu de la numérologie de l'année globale dans laquelle nous sommes en ce moment. Au niveau numérologique, 2018 donne, quand on additionne, ça nous donne un beau 11. C'est loin d'être un petit nombre, c'est un nombre qui a une grande force énergétique en fait. Et oui, c'est juste un nombre, mais si vous vous intéressez un petit peu à la numérologie, vous pouvez découvrir que ces calculs-là, en fait, ont été utilisés depuis des centaines, des milliers d'années et qu'ils sont plutôt justes. Je suis une grande fan de numérologie et je vois aussi que même au niveau des médiums, de toutes sortes de personnes qui reçoivent des messages, tout s'accorde en fait. Donc, qu'on utilise la voix de la numérologie pour décrire cette année 2018 ou qu'on utilise une autre voix qui est plus en canalisation ou par les maîtres spirituels qu'on a autour de nous dans le monde, on s'en va tous vers la même direction. Et c'est ça qui est très intéressant. J'ai pris le temps de valider cette information-là que j'avais donnée justement au tout début janvier. J'ai pris le temps de la valider cette semaine parce que le mot, c'est en fait le mot Shambhala me revenait en tête constamment. Et Shambhala, en fait, signifie le paradis sur terre en sanskrit ou dans ce genre-là. Là, j'ai pas énormément étudié le sens de cette vision-là parce que je sais qu'il y avait toute une pensée qui se cachait derrière ça, il y avait toute une philosophie. Mais tout de même, ce mot-là me revenait en tête et je savais que je devais en parler. Et ça revenait constamment et je me disais, ah, mais c'est pas nécessairement le sujet que j'avais envie d'aborder, j'en ai déjà parlé. On est rendu au mois d'avril, mais justement. On est au quatrième mois, on arrive au milieu de ce quatrième mois de l'année, d'une année qui est déjà commencée, qui j'espère pour vous est bien commencée, et une année qui vous ouvre énormément de portes. On va glisser vers Shambhala et on va parler aussi d'amour propre et de confiance en soi. Tout ça pour peut-être, j'espère, vous amener vers un tout qui vous aidera à cheminer dans cette année 2018 qui vous permet réellement de construire la vie que vous souhaitez, de travailler réellement à avoir des impacts sur votre vie pour toucher, pour être dans la vie que vous souhaitez. Pour la fin de l'épisode, je vous réserve un petit récapitulatif du dernier épisode, en fait un retour plutôt, et je vais vous parler du groupe Clair Potentiel qui existe maintenant pour tous les gens qui sont intéressés par la médiumnité. Donc on parle de ça à la fin de l'épisode et on va aussi parler de la Lune. Donc là, très bientôt, en fait, le 16, c'est la nouvelle lune. Et je vais vous donner quelques petits indices de comment vous pouvez travailler avec cette énergie-là. Alors, on s'en parle à la fin de l'épisode et pour l'instant, on s'en va découvrir Shambhala. Alors, ce qui est très important à comprendre et à ressentir, je vous le souhaite, c'est que cette année 2018, c'est une année de croissance. Et toute l'énergie qui est là, toute la possibilité, le potentiel, et vraiment pour nous permettre à tous, individuellement et collectivement, de non seulement grandir, mais d'aller toucher notre essence. Donc notre âme, notre raison d'être ici, ce qu'on a à apporter ici, notre valeur, notre richesse, notre magie, notre potentiel. Comme je vous dis, je suis allée voir au niveau de la numérologie, je suis allée voir au niveau de certains médiums qui font des prédictions pour l'année, et tout mène vers ça. Et ce qui est important aussi que je vous dise, c'est qu'une année 11 en numérologie, une année universelle, ça revient très peu souvent. Donc, on en a eu une en 2009. Et on a de la chance parce qu'on en vit deux dans un même cycle de 9 ans. En l'espace de 9 ans, on en vit deux. Alors que celle qui s'était présentée avant celle de 2009 était seulement en 1910. J'ai pas pu voir quand se produira la prochaine, mais si on se fie à l'agencement des chiffres, c'est peu commun. Et je me souviens profondément de l'année 2009. Je sais pas où vous étiez en 2009, ce que vous viviez, ce que vous ressentiez, si vous avez vécu des expériences particulières, que ce soit positives ou négatives, mais qui vous ont fait grandir. C'est surtout ça. Qui peut-être vous ont ramené un peu plus à vous, vous ont donné une vision un peu plus claire de votre vie. Pour ma part, j'ai vécu un gros événement. J'en ai parlé beaucoup. Je me suis mariée cette année-là et je me suis séparée à peine quelques mois plus tard. Suite à ça, j'ai vécu ce que j'appelle une illumination, qui m'a fait vivre toute une réalité différente que j'avais jamais perçue aussi fortement avant. Et c'était une réalité d'amour. Et justement, dans mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est que une année 11 en numérologie, c'est une année d'amour. Pas dans le sens où les choses sont faciles, mais dans le sens où c'est avec notre cœur qu'on doit raisonner, pas avec notre mental. C'est une année au niveau du ressenti, de votre intuition. Et c'est là que ça va vous mener vers les personnes, les actions, les projets, les changements, peu importe, qui sont nécessaires pour vous pour cette année. C'est aussi une année de patience. Donc c'est une grosse année qui va faire bouger les choses et les faire aligner. Mais c'est pas une année où les choses se passent rapidement. C'est très positif. J'avais lu au début de l'année, en janvier, que c'était une année où on est beaucoup dans la loi de l'attraction. À la base, on disait autant au niveau positif que négatif, on va attirer l'énergie qu'on envoie, ce en quoi on croit et ce sur quoi on focus. Je tiens quand même à vous raconter un peu un élément que je vous avais jamais raconté en fait de 2009 et qui m'est revenu aujourd'hui même, ce matin. Je me suis souvenue que avant cette fameuse illumination dont je vous ai beaucoup parlé dans les précédents épisodes, j'ai prié. Et j'avais jamais prié. Jamais comme ça. C'était la première fois. Alors, un outil que j'ai envie de vous donner, de mettre dans vos mains et de vous dire de l'utiliser sans limite, c'est la prière. Et vous pouvez prier de toutes les façons que vous voulez. Pour moi, la prière n'est pas du tout associée à une religion. C'est associé plus à une croyance, bien sûr. C'est associé à une connexion. C'est une connexion au cœur, à l'âme. Et quand on prie, on parle à une force qui est plus grande que nous. Donc on peut parler à notre âme elle-même, lui demander de nous envoyer, de nous guider, de nous envoyer des informations, de nous aider à nous connecter à elle, puisque notre âme sait très bien qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire ici. Nous pouvons prier nos guides, leur demander de nous aider. Nous pouvons prier tout simplement une force plus grande qu'on appelle Dieu, qu'on appelle l'univers, qu'on appelle la vie, vous l'appelez comme vous voulez. Ça va fonctionner, ça je l'ai déjà dit de toute façon. Ça va fonctionner parce que vous faites appel avec foi, avec toute votre foi. Vous faites appel à une force plus grande que vous et vous lui dites « je sais que je veux avancer. Je ne vois pas tous les éléments qui vont m'aider à avancer. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider à y voir plus clair? Est-ce que vous pouvez m'envoyer des éléments qui vont m'aider sur mon chemin? Des personnes, des choses, ça peut être des biens matériels qui vont vous aider sur votre chemin. » Je vous invite d'abord à prendre contact avec cette partie sacrée, avec cette communion et cette communication sacrée qui, elle, va vous amener vers la loi de l'attraction et vers la création ou la co-création de votre vie de rêve qui est toute indiquée pour cette année 11, pour cette année où on construit enfin ce qui nous correspond. Et je suis allée, je fouillais sur le site de Tears One dont je vous parle beaucoup, qui est une grande influence pour moi. Je suis allée sur son blog il y a quelques semaines et je suis tombée sur, justement, sa prévision pour 2018. Tout ce qu'elle dit est en accord direct avec, justement, l'année 11 universelle en numérologie. Alors, je peux vous dire quelques passages. C'est en anglais, je vais vous les traduire au fur et à mesure, en fait. Donc, elle dit que, vous savez, on a cette effervescence, comme je vous disais en début d'épisode, du nouvel an. Le nouvel an où, tout d'un coup, la porte est ouverte vers le nouveau, vers l'impossible, vers les rêves. L'atteinte d'objectifs, c'est là qu'on prend des résolutions. 2018 est une année entière de cette énergie-là. Donc c'est cette énergie du nouvel an qui se perpétue. Et vous voyez, ça me fait comprendre pourquoi est-ce que je devais vous faire cet épisode-là maintenant, à la mi-avril, plutôt que de tout simplement en parler au Nouvel An et après ça d'oublier toute cette énergie-là qui est absolument extraordinaire et qui est pleine de potentiel. Mais je tiens vraiment à vous en parler pour que vous puissiez être conscient de tout ce qui peut arriver dans votre vie, de votre potentiel d'action aussi et de toute la magie qui est autour de ça. Thierry Swan en fait dit dans cet article que c'est une année où on va pouvoir naturellement laisser aller les choses qui ne nous servaient pas. Et on va pouvoir tout aussi naturellement attirer, construire ce qui était réellement désiré pour notre cœur. Elle dit que plusieurs d'entre nous allons trouver notre tribu, notre famille, notre groupe d'appartenance. Et c'est absolument extraordinaire parce que c'est ce qui est en train de m'arriver moi-même, mais que je vois aussi autour de moi. J'ai des amis, j'ai de la famille qui s'envolent vers de nouveaux projets, qui se sentent allégés, rassurés. Et c'est beaucoup ça qui ressort dans ce texte-là. Donc on dit qu'on trouve une espèce d'extase qui est juste. Tellement, on sent tellement la justesse, on sent tellement qu'une chose est vraie et qu'elle a raison d'être, que ça nous mène, ça nous donne une extase, mais qui est une extase qui est juste apaisante en fait, qui est pas déconnectée, qui est pas trop élevée, trop intense et qui nous fait pas planer sans être groundée. Donc c'est, oui, une année de racines et de pour se grounder en fait. C'est une année d'inspiration. Elle dit, ça va faire de l'intégration dans la désintégration. Ce que ça signifie, c'est que tout ce qui pouvait être chaotique va avoir tendance à s'équilibrer, à se rassembler. Donc, il va y avoir de moins en moins de chaos dans votre vie. Donc, ça nous amène vers une plus grande stabilité, en fait. On dit que cette année-là nous permet de construire une fondation qui nous amène en alignement direct avec notre âme, avec notre mission, la mission de notre âme et la mission de notre vie, l'objectif de notre âme. On dit que cette énergie d'alignement-là va apporter à la fois une structure et un ordre dans nos vies, donc pour nous permettre d'aller vers ça. Et elle précise que c'est pas en travaillant avec notre esprit rationnel qu'on va construire cette structure-là. Il faut suivre l'instruction de notre intuition. Elle précise aussi qu'il ne s'agit pas de reconstruire, parce que ce qu'on construit dans une année 11, c'est du nouveau. On n'est pas en train de reconstruire quelque chose, de tout simplement démonter quelque chose pour le refaire. Non, ce qu'on fait, c'est quelque chose de totalement nouveau et totalement en alignement avec qui nous sommes. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est une année incroyable, qui est une opportunité pour vous de mettre toute la conscience que vous pouvez, de suivre votre intuition, de prier, de vous aligner avec votre âme, de vous aligner avec l'univers. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir profiter au maximum, avancer le plus possible dans cette année-là. Et c'est pas nécessairement une année de grande action, mais c'est une année de structure, de fondation, qui ensuite va vous donner toute la force pour faire les actions pour toutes les années qui viennent. Et c'est une année où vous allez vous trouver. C'est absolument extraordinaire. Et je comprends pourquoi je devais faire cet épisode-ci, parce que je l'ai vécu en 2009. Peut-être que vous avez effleuré aussi, peut-être que vous l'avez vécu en 2009. Mais en ce moment, je sais à quel point c'est vrai. À quel point je ressens cette énergie-là. Et je comprends pourquoi est-ce que ce thème-là revenait constamment dans ma tête. C'est parce que c'était un message que je devais faire cet épisode-là. Donc on dit que ça va nous connecter avec notre sagesse intérieure. Notre sagesse intérieure est notre étoile polaire. Donc sur notre boussole, c'est vers elle qu'on doit aller. Et toute notre mission, toute notre âme est en lien direct avec ça. Donc je répète encore, on doit bouger lentement plutôt que de façon frénétique. Parce que ça va faire une structure qui va être beaucoup plus stable et qui va avoir une plus grande longévité. Donc on dit que c'est une énergie qui va nous aider à conjurer une espèce de sort passé, donc des choses qui restaient. Ça va nous permettre de laisser aller ça. Toujours Thierry Swan dit que c'est une année où on est appelé à apporter dans le monde physique notre divinité. Donc dans le tangible, dans le matériel. Donc c'est une année tout de même de... Quand on parle de fondation réelle. Donc je dirais, c'est une occasion parfaite de se laisser aller, de s'abandonner de façon positive à la meilleure version de nous-mêmes en fait. C'est une occasion parfaite d'incarner la meilleure version de nous-mêmes. Et ça donne toute une énergie. Toujours selon d'autres recherches que j'ai faites au niveau de la numérologie, on dit que c'est une année de balance et d'autonomie. Et de relations, en fait. Donc, on va apprendre à être en relation, mais toujours en respect de soi. Et c'est important parce que c'est une année de guérison et c'est une année de sécurité aussi. Ça, c'était dans le texte de Thierry Swan. Et C'est une année où nos désirs, nos plus grands besoins peuvent être répondus. Et encore une fois, je vous dis, je le vis en ce moment. J'espère que vous le vivez aussi, que vous le ressentez. Et si vous le ressentez, si vous ressentez une parcelle de ça, une toute petite étincelle, allez vers ça. Allez nourrir ça. Et écoutez l'appel de votre cœur parce que on est dans une énergie parfaite pour recevoir exactement ce dont on a besoin, pour grandir. Ce dont notre cœur a besoin, notre âme, ce dont nous-mêmes, même notre enfant intérieur a besoin. C'est une année de retrouvailles avec soi-même et d'harmonie. Donc encore, c'est une année pour trouver sa tribu, pour trouver sa famille. C'est une année d'équilibre entre le masculin et le féminin. C'est une année de tolérance. Et c'est une année, je vais terminer les lectures que je suis en train de vous partager, c'est une année où on peut s'attendre à des miracles. D'où l'importance que je vous dis d'utiliser la prière, de vous connecter à votre âme, à vos guides, à une énergie plus grande, et de demander. De demander positivement, je veux dire avec des phrases positives, ce que vous souhaitez recevoir. Et si vous ne savez pas où vous voulez aller, demandez tout simplement une guidance pour vous aider à comprendre, à voir où vous devez aller en accord avec votre mission. Alors, je ne dirai jamais assez. Je veux vraiment que vous compreniez, que vous ressentiez, j'espère que vous ressentez cette force-là. Et comme je vous disais, moi, en 2009, ça a été une année d'épreuves. Et ça se peut que vous viviez des épreuves. Ça ne veut pas dire que c'est facile, que c'est tout beau. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce qui se cache derrière, c'est une croissance. Encore plus que jamais, je dirais. Encore plus que d'habitude, peut-être, parce que c'est une année qui sert vraiment à vous ramener vers vous-même, à vous ramener vers votre essence. Alors, s'il arrive des épreuves, comme moi, je vous parlais de mon divorce en 2009, qui était dans une année 11 toujours, c'est à travers la prière, j'ai demandé. Et j'avais complètement oublié ça. Je pensais que l'illumination, les mots que je vous ai dit que j'avais entendus et la vision que j'ai eue, j'étais certaine que ça venait de nulle part. Et c'est ce matin seulement que j'ai fait le lien avec le fait que je priais depuis des jours et des jours. J'étais allée, prier sur la tombe d'une personne de la famille qui était décédée. Et je lui avais dit, j'ai aucune idée si toi tu peux m'aider, mais je demande de l'aide en général. Et comme je sais que toi tu étais très croyante, ben je suis venue te voir. Et je l'ai fait pendant plusieurs jours, j'allais la voir. Et par la suite, ça s'est modifié un peu et j'ai commencé à parler plus à l'univers en général. Et à travers de ça, il y a eu l'illumination et finalement c'était la réponse à ma demande. J'avais demandé de l'aide. Alors gênez-vous pas. À tout instant, qu'on soit dans une année 11 ou non, mais en ce moment la porte est grande ouverte pour vous connecter à vous-même. Profitez-en. Ayez confiance, ayez la foi, laissez-vous aller ouvrir votre cœur. Je fais toujours beaucoup de recherches, comme vous savez. Mes semaines sont un partage de m'occuper de mon garçon, passer du temps avec les gens que j'aime, lire, apprendre de différents maîtres spirituels, pratiquer aussi ces enseignements-là, et écrire. Je lis beaucoup à chaque semaine, et cette semaine, je pensais et je suis tombée sur plusieurs auteurs qui peuvent nous aider à faire ce chemin-là, en fait. J'écoutais, en fait, il s'appelle Dr. Dragos, c'est en anglais. Alors, il vient tout juste de lancer un livre cette semaine qui s'appelle The Pursuit of Dreams. Et je vous dis, c'est édité par Hay House, qui est, je dirais, la plus grande maison d'édition au niveau spirituel aux États-Unis. Alors, ça montre une bonne crédibilité. Et Dr. Dragos avait fait une série de vidéos en préparation au lancement de son livre. Et le tout dernier, en fait, portait sur l'importance de laisser entrer. Il disait Jésus, en fait, de laisser entrer Jésus dans son cœur. Et je vous dirais, lui, il explique que c'est seulement Jésus qui peut occuper cette place-là. Moi, je le relativise à me dire que c'est une énergie, en fait, plus grande. Donc, s'abandonner à la sagesse de Dieu, si vous croyez en Dieu, de Jésus, si vous voulez, de l'univers, de vos guides, de votre âme. Et de laisser entrer tout l'amour et la bienveillance dont je vous ai parlé dans le passé aussi qui vient avec cette énergie-là. De la laisser entrer dans votre cœur. Et il dit que c'est la seule chose qui peut entrer dans le cœur et que le manque qu'on peut ressentir au niveau du cœur ne peut être comblé que par ça. Bien sûr, on peut recevoir de l'amour, on peut s'accomplir. Mais ça, en fait, je vous dirais, cette énergie-là, c'est un synonyme d'avoir la foi aussi. Mais avoir la foi sert à rien si on ne porte pas action à partir de cette foi-là. Alors, quand on prie à partir de notre foi, on est déjà en action. Oui, on n'est pas en train de poser un geste, mais on est déjà en train de mettre notre foi en action, parce que la parole elle-même est une action. La parole elle-même a une force de vibration et une force de changement. C'est pour ça qu'on dit que quand on prie, il faut prier à voix haute. Et ça, je vous le dirai, je vous l'ai dit déjà, je vous le dirai jamais assez. C'est important que vous ayez un espace où vous arrivez à prier à voix haute. Je crois, j'en suis convaincue, parce que la force de vibration des mots est encore plus grande. Vous pouvez le faire dans votre tête, je pense pas que ça fonctionne pas du tout. Mais on dit qu'il y a une énergie de plus quand on le fait à voix haute. De laisser entrer la foi dans son cœur, c'est déjà un merveilleux départ. Et je vais faire écho justement avec un autre auteur qui s'appelle Marianne Williamson. Elle a écrit Un retour à l'amour. La version originale est en anglais. Moi, j'ai la version française traduite ici. Et je vais vous lire quelques petits extraits du tout début du livre pour vous situer un petit peu sur qu'est-ce qui se passe là-dedans, en fait. Alors, elle parle qu'elle était collégienne à ce moment-là. Donc, elle était toute jeune. Elle dit « Je ne savais que faire de ma vie, même si je me rappelle que mes parents me suppliaient de faire quelque chose. J'allais de liaison en liaison, de travail en travail, de ville en ville, à la recherche d'une identité ou d'un but. De l'impression que ma vie débouchait finalement sur quelque chose. Je savais que j'avais du talent, mais j'ignorais dans quel domaine. Je savais que j'étais intelligente, mais j'étais trop débridée pour appliquer mon intelligence à ma réalité quotidienne. Je suivis plusieurs thérapies, mais sans grand effet. Je sombrais toujours plus profondément dans mes habitudes névrotiques. Je cherchais du soulagement dans la nourriture, les drogues, les autres, dans tout ce que je pouvais trouver pour me distraire de moi-même. J'essayais toujours d'agir de façon à ce qu'il se passe quelque chose dans ma vie, mais rien ne se passait, sauf le drame que je créais autour de tout ce qui ne se passait pas. J'avais pendant toutes ces années un immense dégoût de moi-même et il augmentait à chacune de mes crises. À mesure qu'augmentait mon désarroi, je m'intéressais de plus en plus à la philosophie orientale, occidentale, universitaire, ésotérique, Kierkegaard, Yi King, l'existentialisme, la théologie radicale chrétienne, de la mort, de Dieu, le bouddhisme et le reste. J'avais toujours le sentiment que quelque ordre cosmique mystérieux régnait sur toutes les choses, mais je ne parvenais jamais à m'imaginer comment cet ordre s'appliquait à ma propre vie. Un jour, j'étais assise et je fumais de la marijuana avec mon frère. Il me dit que tout le monde me trouvait bizarre. « Comme si tu étais atteinte d'une sorte de virus, » dit-il. Je me souviens avoir eu envie de bondir hors de moi. Je me sentais comme une extraterrestre. J'avais souvent l'impression que la vie était un club privé et que tout le monde sauf moi en détenait le mot de passe. J'avais l'impression que les autres connaissaient un secret que j'ignorais, mais je ne voulais rien leur demander parce que je ne voulais pas qu'ils sachent que je ne savais pas. À 25 ans, ma vie était un gâchis total. Juste avant de continuer, je tiens à dire que j'aurais pu écrire ces quelques petits paragraphes et quand j'ai lu, j'en venais juste pas parce que je me rends compte que moi j'ai vécu ça. L'auteur Marianne Williamson a vécu ça et je suis certaine qu'il y en a entre vous qui ont vécu ça. De vous sentir complètement détaché et un peu désespéré en fait, de pas comprendre le sens, tout simplement, de tout ce qui nous entoure. Alors je continue. Un retour à l'amour traite de la pratique de l'amour. L'amour est une force et non pas une faiblesse, et la réponse quotidienne aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Comment l'amour peut-il être une solution pratique? Ce livre est conçu pour servir de guide à l'application miraculeuse de l'amour, le baume qui guérit toutes les blessures. Que la douleur psychique soit due aux relations interpersonnelles, aux problèmes de santé, de carrière ou à autre chose, l'amour est une force puissante. Il est le traitement, la réponse. Les Nord-Américains ne sont pas très portés sur la philosophie, mais nous sommes très forts sur l'action, une fois que nous avons compris la raison d'agir. Dès que nous comprenons pourquoi l'amour est tellement nécessaire à la guérison du monde, un changement se produit dans notre vie intérieure et extérieure. Je prie pour que ce livre puisse être utile à quelqu'un. Je l'écris en ouvrant grand mon cœur. J'espère que vous le lirez, l'esprit ouvert. Je continue avec un dernier extrait et ensuite je vous expliquerai le livre. Dans Un cours sur les miracles, j'ai appris que ce changement que nous recherchons vraiment se trouve dans notre tête. Les événements sont en perpétuel mouvement. Un jour, ils sont favorables. Le lendemain, on en est victime. Un jour, tout se passe en douceur. Le lendemain, règne le chaos. Un jour, on a l'impression d'être quelqu'un de bien. Le lendemain, on se sent totalement nul. Ces changements dans la vie se produiront toujours. Ils font partie de l'expérience humaine. Ce qui peut changer, par contre, ce sont nos perceptions. Et ce changement dans nos perceptions est le sens des miracles. Alors, vous comprendrez que Marianne Williamson mentionne le livre « Un cours sur les miracles », qui est un livre très connu et qui date de quand même quelques décennies, et qui nous apprend en fait à travailler avec la foi, et je crois avec la loi de l'attraction. Je ne l'ai pas lu encore. Mais le livre de Marianne Williamson avait comme but en fait de donner quelques clés du cours sur les miracles. Ça repose vraiment sur l'idée que c'est à partir de l'amour qu'on peut modifier sa vie, attirer à soi quelque chose de meilleur. Et ça part par l'amour de soi-même. Alors si l'idée du livre vous parle, je vous invite à aller le lire. Je vais vous mettre un lien en description de cet épisode, en fait, sur le blog de Ethica Veridis. Alors vous pourrez avoir un lien vers Amazon pour vous procurer le livre. Et si vous souhaitez vous le procurer à partir de ce lien-là, en fait, il y a un tout petit pourcentage de la vente qui va aller en retour pour financer le podcast, pour financer le travail que je fais avec le podcast, tout le temps que j'ai investi aussi dans la recherche. Alors si vous trouvez que les épisodes vous servent et vous aident à apprendre, je vous invite à passer par ce lien-là si vous souhaitez acheter le livre. Je voulais vous parler aussi, je voulais entrer un peu plus dans l'importance de l'amour propre. Alors je pense vous avoir dit quand même les bonnes bases par rapport à Shambhala ou à cette année 11 dans laquelle nous sommes. Et je pense que pour arriver à travailler avec cette énergie-là, bien, il faut d'abord revendiquer notre valeur. Et je vous en ai parlé beaucoup par le passé. Je vous en ai parlé dans l'épisode 6 qui portait sur la guérison du cœur, sur l'authenticité, sur l'importance d'être soi pour être aimé, puisque sinon, c'est pas nous qui sommes aimés, c'est notre masque. Je vous ai parlé aussi de l'importance de reconnaître ses besoins. Si je ne me trompe pas, c'était dans l'épisode 9, où je vous ai aussi parlé de la loi de l'attraction. Alors, je vous invite à faire un retour vers ces épisodes-là aussi, si vous ne les avez pas déjà écoutés. Ça va vous aider. Mais il me reste encore en moi des questions par rapport à l'amour propre. Alors, je me dis, comment? Comment est-ce qu'on peut s'aimer réellement? Je pars un peu dans mes réflexions et je me dis que pour connaître l'amour propre, il faut d'abord connaître l'amour. Et que si on a eu peu de manifestations dans notre vie de ce qu'est l'amour sain, inconditionnel, pur, doux, un amour qui est chaleureux, qui est sécurisant en fait, eh bien, il me semble que c'est très dur à ce moment-là de comprendre l'amour qu'on doit s'offrir à soi-même si on n'a jamais vécu cet amour-là. Et oui, ce que je dis là est très triste. Pour moi, c'est, je le dis et j'ai le cœur qui serre. Parce que c'est très dommage. Et en même temps, on veut être capable, on veut avoir la possibilité, la capacité d'aller au-delà de ça. Si on a eu ce manque-là, de ne pas le subir pendant toute sa vie, parce que ce serait beaucoup dommage. Et oui, encore une fois, je trouve ça très triste et très lourd à dire comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut passer par-dessus ça? Comment est-ce qu'on peut réapprendre? Parce que quand on est enfant, on aime. On donne de l'amour, on donne de la chaleur, on est plein de vie. Ce canal d'amour est grand ouvert quand on est petit. Et c'est les expériences qu'on a qui nous font soit garder le canal, soit le protéger un peu, ou soit le fermer, en grande partie. Et si je m'observe, vous savez que je me prends souvent en exemple, quand j'étais petite, j'étais un grand canal à amour. Et ça marquait même les gens, des amis, par exemple, de mes frères et sœurs, qui sont beaucoup plus vieux, venaient à la maison et quand ils m'ont connue plus grande, à la fin de mon adolescence ou dans mon âge adulte, ils me disaient à quel point je les avais marqués. Donc, je pense que j'étais une énergie d'authenticité et d'amour, beaucoup. Et par la suite, selon les expériences qu'on a, c'est ça, on peut se fermer. Et moi, je sais que je me suis fermée et j'ai voulu identifier, surtout récemment en fait, pour quelles raisons je m'étais fermée, pour découvrir que c'est par peur. Et ça va être le cas pour la presque majorité d'entre nous qui va s'être retenu d'aimer, c'est par peur. Donc ça peut être la peur d'être abandonné, la peur de donner mais de ne pas recevoir en retour, la peur d'être abusé d'une certaine façon, que ce soit pas nécessairement physiquement, mais qu'on abuse de cet amour. La peur d'être rejeté, la peur de vivre la violence, il y a plein de choses. Pour moi, je me suis rendu compte que ça avait été généralisé à la peur de tout le monde. Donc, j'étais rendue tellement habituée à avoir le cœur fermé et j'avais eu une période de ma vie où j'avais reçu tellement peu de reconnaissance réelle et d'amour réel et d'une personne, par exemple, qui me regarde et qui était réellement intéressée à savoir qui je suis, ce qui m'intéresse, ce que je fais, et qui est vraiment intéressée, qui ne demande pas par convention. Et je connaissais tellement pas ça que je me suis rendu compte que dans mon âge adulte, quand je me retrouvais devant des personnes qui étaient pleines d'amour, qui s'intéressaient réellement à me découvrir, à me rencontrer, et qu'elles me demandaient ce que je faisais, je devenais complètement déstabilisée. Je me sentais agressée. C'est complètement fou. Alors que cette personne-là était dans un amour pur. Et tout ce qu'elle voulait, c'était de façon sincère et honnête et vraie, me connaître, sans rien demander en retour. Alors là, je me disais, mais pourquoi cette personne-là me donne autant d'attention? Qu'est-ce que je vais devoir lui donner en retour? Alors j'étais profondément mal à l'aise et je fuyais. Mais qu'est-ce que je fuyais au fond? C'était l'amour. Parce que c'était les seules personnes authentique, qui donnait un amour inconditionnel, qui s'approchait de moi et moi je les fuyais parce que ce type d'amour-là, je le connaissais pas. Un amour où on n'est pas en train de. Un amour, une relation où on n'est pas en train de donner et de prendre et de donner et de prendre et de tirer et de demander si fortement de se faire donner. Donc quand on est dans un amour inconditionnel, il n'y a rien qui est calculé, il n'y a que de l'amour qui coule. Et ça s'équilibre naturellement parce que les deux personnes donnent un amour qui est non calculé et qui coule, qui est juste de la chaleur et de la lumière au fond. Donc on le sent tellement. Mais quand le canal est fermé, quand le cœur est fermé, on peut pas accepter cet amour-là parce que c'est tellement fort qu'on le comprend pas. Ça vient pas de notre monde. Et j'avais cette réflexion-là. Je voulais vous parler d'un auteur qui s'appelle Matt Kahn. Donc ça s'écrit MATTKAHN. Donc lui, il a écrit un livre qui, en anglais, s'appelle Whatever Arises. Love that. En français, peu importe ce qui arrive, aimez. Matt Kahn est un maître spirituel en Occident. Il a écrit ce livre-là par canalisation. Donc, il en parle au début. Il dit que les mots sont venus d'eux-mêmes. Lui, il est comme un canal. Il reçoit les mots, il les écrit et que chaque mot dans son livre a une grande vibration. Donc, une vibration de guérison déjà. Je vous invite fortement à lire ce livre-là, peu importe ce qui arrive, aimez. Ou en anglais, whatever arises. Love that. Je pourrais vous mettre les liens en description de mon épisode. Vous aurez les liens Amazon et je vous invite, si vous souhaitez, à cliquer sur ces liens-là pour aller acheter le livre si vous le voulez. La première phrase du livre est celle-ci. Dans un monde de questions à n'en plus finir, l'amour est la seule réponse. Le seul objectif de l'auteur, c'est vraiment de nous apprendre à ouvrir notre cœur et à travailler avec notre cœur plutôt que de toujours chercher à le préserver. Parce que, au fond, l'hypothèse, et je suis entièrement d'accord, c'est que la seule façon de vivre pleinement et de donner et d'avoir une vie épanouie, c'est de vivre à travers notre cœur. Et on dit que le cœur, c'est le siège de l'âme aussi. Donc, notre connexion à notre âme se passe par notre cœur. Et vous vous souvenez dans le dernier épisode sur la clairsentience, je vous ai parlé de l'importance de garder le cœur ouvert. Alors, ce livre-là parle de ça et je me souviens en fait. Là, j'ai commencé ma deuxième écoute, je lis en livre audio en anglais. En fait, j'ai le cours. Donc, j'ai pas lu le livre de base, mais j'ai fait le cours qui donne encore plus de trucs, au fond, en anglais. Et je me souviens à quel point je me sentais pas bien. Mais c'est pas parce que ça m'intéressait pas, c'est que j'avais énormément de résistance. J'ai continué, mais ça tirait tellement à l'intérieur de moi parce que justement, mon cœur était fermé. Et peut-être il essayait de s'ouvrir ou. Mais en même temps, j'avais tout mon inconscient qui arrivait pas, qui voulait pas. Quand j'ai commencé à le réécouter pour la deuxième fois récemment, il y a un passage au complet qui m'a expliqué pourquoi j'avais réagi comme ça, en fait. Donc, il dit que quand on commence à aimer notre cœur, on peut ressentir la sensation de ne pas savoir, de ne pas sentir que c'est correct d'avoir de l'amour dans son cœur. Peut-être qu'il y a cette sensation de « je sais pas » à quoi ça ressemble. Je sais pas comment ressentir ça. Je sais pas en fait si c'est correct de ressentir ça. Peut-être que on se sent pas authentique quand on ressent de l'amour dans notre cœur. Parce que dans nos habitudes, on n'a jamais vraiment ressenti ça. Il explique en fait que, en fait, on a si peu enregistré de marques d'amour dans notre inconscient que, effectivement, tout notre esprit comprend pas comment ça peut être réel. Et il explique en fait que l'inconscient, ou le subconscient, a deux catégories, le familier et l'étranger. Et toutes les expériences qui lui arrivent, il va aller les enregistrer ou il va aller les regarder avec le regard familier ou le regard étranger. Et il va enregistrer les expériences dans une ou l'autre de ces deux catégories. Ce qu'il va faire, qu'il va regarder un événement ou une expérience avec la loupe du familier ou de l'étranger, c'est selon la fréquence. Donc, si un événement est arrivé souvent, bien sûr, il va le regarder avec l'œil familier. Et s'il est arrivé peu souvent, il va le regarder avec l'œil étranger. Mais tout le corps, tout l'esprit, tout le mental, ensuite, va réagir en fonction de si c'est familier ou étranger. Donc, si dans votre expérience, l'amour est la chose la moins fréquente que vous avez reçue, alors là, l'amour de soi peut devenir la chose la plus infréquente ou étrangère pour vous. Alors que l'amour soit une chose étrangère et que l'amour propre soit une chose étrangère pour vous, c'est déjà une base qu'il faut comprendre. Parce que si, par exemple, comme moi, vous avez essayé pendant 10 ans de trouver votre amour propre, mais que à la base, c'est quelque chose d'étranger pour vous, vous avez beau utiliser plein de techniques où on a beau vous dire « ben là, tu devrais t'aimer, c'est simple », ça va rien changer. Si vous sentez qu'il y a un trou quelque part et que ça fait des années que vous essayez, ben c'est probablement dans l'enregistrement de base qu'il y a une défectuosité. Ce qui est important, en fait, c'est que ça explique que ce serait possible de vous sentir inauthentique alors qu'on prône justement l'authenticité. Moi-même, je le fais. Alors, votre subconscient peut vous donner l'impression d'être inauthentique quand vous expérimentez l'amour de vous-même. Si, par exemple, vous avez toujours eu dans votre tête cette parole de « Ah, mais moi, je suis pas bonne. Non, mais je serai jamais capable de faire ça. Moi, je suis vraiment incompétent. » Ben le jour où vous allez vous dire, vous allez vous appeler mon beau ou ma belle, ou que vous allez vous dire « Je vous aime » ou « Wow, t'as vraiment bien fait ça », vous allez vous donner une espèce de petite tape dans le dos à vous-même. C'est très possible que ça résonne comme une fausseté pour vous et que vous ayez juste l'impression d'être complètement ridicule. Parce que vous l'avez jamais fait avant, mais aussi parce que tout votre système de pensée est construit d'une certaine façon que ça arrivera pas naturellement que vous vous aimiez, que vous soyez doux envers vous-même si vous avez toujours été très dur envers vous-même. Donc ça demande vraiment d'être conscient. Et cette inauthenticité-là, ce malaise-là que vous sentez, de l'accepter. Mais de pas le voir comme un indice que ce que vous faites est pas la bonne chose, parce que quand on parle de s'aimer, c'est la base de la vie. C'est ce qui va faire que vous allez progresser et vivre une vie consciente plutôt que de juste suivre le courant. Et si on n'a jamais pris le temps de s'aimer, on finit par se dire qu'on ne mérite pas d'être aimé. Et c'est pour ça qu'il faut commencer, comme le dit l'auteur Matt Kane, il faut commencer ce qu'il appelle lui le « love revolution », donc la révolution de l'amour. Il faut tout retourner dans l'autre sens. Donc il faut commencer par s'aimer soi, aimer notre cœur, regarder comment notre cœur se sent, comment il réagit aux choses. Et ce qui est super intéressant en plus, j'écoutais un autre podcast où on allait chercher en fait des études scientifiques qui montraient que on sait qu'on a beaucoup de neurones dans le cerveau, c'est à partir d'elles qu'on pense, ça c'est notre idée de base. Moi je savais qu'on avait des neurones dans les intestins. On dit par contre que quand on a un déséquilibre dans l'intestin au niveau d'une mycose, d'une levure, d'une infection au candida albicans, on peut avoir une pensée qui est altérée par ça parce qu'il y a des neurones dans notre intestin. Mais on a aussi des neurones dans le cœur, selon ce que j'ai entendu par rapport à cette étude-là. Donc on pense aussi avec le cœur. C'est fou, imaginez qu'on puisse réellement penser avec le cœur, imaginez la beauté humaine que ça peut donner. Sachant que justement, le cœur est le siège de l'âme, c'est le siège de notre sagesse, c'est notre cœur, c'est pas notre cerveau, c'est notre cœur. Alors c'est toujours lui qui doit ressentir. Quand je vous dis que l'amour peut paraître étrangère, c'est drôle parce que j'ai toujours eu une perception de moi selon laquelle j'avais beaucoup de connaissances de moi-même, beaucoup de respect de moi-même et beaucoup d'amour propre. Je me disais que j'avais assez une bonne conscience de qui je suis, que je me faisais pas piler sur les pieds vraiment longtemps. Donc je restais jamais dans une direction ou dans une situation dans laquelle je voulais pas aller ou dans laquelle j'étais pas bien. Et ça, c'est vrai que là-dessus, il y a de l'amour de soi, il y a du respect de soi pour éviter de se perdre complètement. On change de direction, on se rend compte qu'une telle situation ne nous convient pas. Donc ça, c'est beau parce que ça s'appelle aussi mettre ses limites. Mais par contre, j'étais vraiment pas proactive avec mes propres valeurs, avec mes propres besoins, mes idées. Donc tout ce que je faisais, c'était être sur la défensive. Alors je tassais un peu du revers de la main les choses qui me convenaient pas, mais j'allais pas chercher ce qui me convenait. Vous comprenez? Il manquait une étape à mon amour de moi-même. J'étais capable de tasser ce que je voulais pas, mais pas capable d'aller chercher ce que je voulais. Alors, je restais passive. Et pour moi, ça démontre un grand manque d'amour propre. Parce que quand on a assez d'amour propre, on finit par se dire qu'on a toute la valeur du monde. On mérite d'être aimé. On a toute la valeur qu'il faut pour réussir quelque chose qu'on veut vraiment faire, un projet, quelque chose qui nous tient énormément à cœur, justement. Alors, si on s'aime assez, on se rend compte qu'on s'aime autant qu'on aime la chose qu'on veut atteindre et qu'on est au même niveau. Mais quand tout ce qu'on fait, c'est tasser les choses qu'on veut pas, oui, on se préserve, mais on se permet jamais de passer à l'autre niveau. Parce que j'étais passive et que cette passivité-là, j'ai commencé à l'appliquer à tout, à absolument toutes les sphères de ma vie. Je commençais par la famille, les amis, les amoureux, mon fils, le travail, la carrière. Je tombais en mode automate et c'est ce que plusieurs personnes finissent par faire avec leur vie finalement. Et si quelque chose me plaisait vraiment pas, ben là je la poussais, je m'en allais. Mais je m'en allais pas en avant. J'allais pas vers la vie. Je faisais juste reculer finalement. J'évitais juste de me faire empoisonner par des éléments indésirables. Mais j'allais jamais chercher les éléments désirés. Alors je me dis, comment est-ce qu'on peut atteindre ce qu'on souhaite si on a même pas la confiance ou même la force de dire ce qu'on souhaite? Mais on peut pas avoir la force de dire ce qu'on souhaite si on pense pas qu'on le mérite. Donc, s'aimer, c'est mettre en action. L'amour, en fait, est un verbe. Ça fait très longtemps que je le dis, et c'est dans un livre de Paulo Coelho que j'avais lu ça, où il disait que l'amour était seulement un verbe. Donc, c'est dans l'action qu'on manifeste l'amour, qu'on le vit, qu'on le ressent. On peut le penser, on peut s'asseoir, mais c'est vraiment dans l'action. Donc, c'est en posant des actions où on se respecte, où on revendique ce qu'on souhaite vraiment pour notre vie, qu'on s'aime tout à coup. Et c'est en faisant petit pas par petit pas qu'on prend cette habitude-là, qu'on s'aperçoit que c'est possible, que c'est correct, et qui finalement va se faire un peu naturellement au fil du temps, mais il faut d'abord mettre l'habitude en place, il faut d'abord faire des tout petits mouvements. Ne serait-ce que de dire, si par exemple, vous voulez manger quelque chose et votre conjoint veut manger quelque chose d'autre, ben de dire, on va manger chacun notre chose, si vous voulez vraiment pas, tu sais, c'est un peu ridicule comme exemple. C'est beau de faire des concessions dans la vie, mais il y a un moment où c'est juste de revendiquer qu'est-ce qu'on souhaite à ce moment-là. Sans en faire de drame, c'est pas grave, c'est correct que chacun veuille sa chose, tu sais. Donc, c'est de se mettre en action pour aller chercher ce qu'on ressent le plus profondément au fond de notre cœur. Et comme on dit, c'est quand nous ressentons profondément le désir de quelque chose que, justement, ça veut dire que nous le méritons pleinement. Et il y en a plusieurs qui l'ont dit. Il y a Rumi, le grand sage maître spirituel, qui avait dit « What you seek is seeking you ». C'est super beau et c'est une base de se permettre de croire que ce dont vous rêvez, ce dont vous avez besoin existe pour vous et vous attend. Et on le vit dans les relations amoureuses, par exemple, quand on rêve de quelqu'un pendant des années, qu'on s'imagine une personne, un type de personne qui va nous correspondre, et quand on a la chance de rencontrer cette personne-là parce que oui, cette personne-là existe, et qu'on s'aperçoit que cette personne-là aussi nous a désirés. Ce que vous désirez, vous désire. Ça fonctionne pour tout. Et c'est Thierry Swan qui le disait probablement à partir de cette pensée-là, que tout ce que vous pouvez imaginer existe pour vous. Donc, est-ce que ça vous ouvre? Moi, ça me fait jubiler, ça ouvre tellement mon esprit, ça enlève toute la peine. Oui, au début, ça peut paraître faux, là, mais plus je pense à cette idée-là, à ce concept-là, et plus je le vis, plus je me dis que toute la peine et la souffrance que j'ai vécue, finalement, j'ai pas à la vivre pour le futur parce que ce que je ressens si fortement à l'intérieur de moi, la réponse existe. Et ça va rejoindre encore la loi de l'attraction où on dit que ce en quoi on croit, on le manifeste. Et vous savez, le mot courage signifie agir avec le cœur. Et on a tendance à croire que les gens courageux sont des gens qui ont pas peur, mais vraiment pas du tout, ça a rien à voir. Ça veut juste dire que c'est les gens qui sont plus qui choisissent d'écouter davantage la voix de l'amour que la voix de la peur. Alors, une personne courageuse est consciente de sa peur, mais toute l'énergie qu'elle déploie pour aller par-dessus sa peur et par-dessus les obstacles et les difficultés, toute cette énergie-là vient de l'amour. On peut pas être courageux sans amour. On peut, à ce moment-là, on est simplement aveugle ou naïf. Mais quand on fonce quelque part avec amour, on est dans le courage à 100%. Alors, si vous admirez quelqu'un qui est courageux, dites-vous pas que cette personne-là n'a pas peur. Elle peut trembler énormément, Mais à un certain moment, l'énergie d'amour devient tellement forte qu'on a la conviction qu'on fait la bonne chose. Avant de faire un retour sur le dernier épisode, je tenais à vous parler un petit peu de la Lune, comme je vous ai dit en entrée d'épisode. Ce qui est important à savoir, c'est que le 16 avril, ça va être la nouvelle Lune. Et pour les gens qui n'ont jamais travaillé avec la Lune, en fait, je vais juste vous donner quelques petites informations pour des choses qui peuvent vous aider et qui vont justement être en lien direct avec ce dont on a parlé dans l'épisode aujourd'hui. Si vous écoutez l'épisode avant le 16 avril, ce qui est important en fait, c'est que le petit dernier là, croissant de lune que vous voyez dans le ciel, c'est vraiment un moment pour vous laisser aller, pour vous abandonner à ce qui est, à la réalité, à tout ce qui est autour, juste un grand lâcher prise. Vous ouvrez les bras. Vous ouvrez complètement. Ça peut être un moment extraordinaire pour faire des postures de yoga où on est dans l'ouverture. Des postures inversées, des postures où on est dans l'étirement. Et non des postures comme l'enfant où on est recroquevillé. On va faire des postures ouvertes de yoga. On va bouger les bras. On peut danser à la maison en bougeant les bras, en ouvrant très grand et on va sentir l'ouverture du cœur. Les derniers jours avant la nouvelle lune, on se repose. C'est une énergie de repos, de récupération. Et on n'essaie pas de lutter contre cette énergie-là. C'est important de ne pas se dire « Mais pourquoi je suis fatiguée tout à coup? Pourquoi je me sens moins performant? » Moi, je le sens depuis le 12, depuis hier. J'ai fait beaucoup de vélo cette semaine. J'ai repris mon entraînement de vélo habituel que je fais pendant toute la saison estivale, en fait. Et là, j'ai repris mon trajet de 20 km par jour. Et hier soir, quand je me suis couchée, j'étais épuisée. Et tout ce que je voyais, c'était la charge de ce que j'avais encore à faire pour les prochains jours et j'ai senti le stress, l'anxiété. Mais justement, on laisse aller, on lâche prise, on se dit « c'est pas grave si j'ai pas fait toute ma liste de tâches, sauf si la vie de quelqu'un en dépend. C'est pas grave s'il reste un petit peu de vaisselle à faire. » On se repose parce que en se reposant bien, on va avoir de l'énergie après pour faire tout ça. C'est en luttant contre une énergie qu'on va vivre un déséquilibre. Et souvent, quand on accepte de faire réellement rien, c'est pas long. On se recharge vraiment parce qu'on accepte complètement cet état-là. Et c'est pas long que l'énergie revient après. Pendant les derniers jours avant la nouvelle lune, on fait ça. On ouvre, on se laisse aller, on lâche prise, on ouvre le cœur, on fait plein de postures. Vous pouvez regarder sur Google, juste faire une recherche. Posture de yoga pour le chakra du cœur. Et vous allez voir plein de belles postures. D'ouverture, d'étirement. Et on va tomber dans la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un renouveau. Et je l'utilise de plus en plus. Je pratique ça depuis 18 mois. Et comme je vous ai déjà dit, je suis en train de monter un cours en ligne qui s'appelle la lune abondante, qui va commencer bientôt dans quelques semaines, quelques mois maximum, pour pouvoir bien travailler avec la lune. Alors, la nouvelle lune, c'est un renouveau. C'est le temps aussi, s'il y a des pensées, s'il y a des prises de conscience qui montent en vous, écrivez, laissez aller, laissez passer toutes ces idées-là parce que ça va vous donner un indice de vos désirs, en fait, de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez apprendre, de ce que vous voulez connaître. Au fur et à mesure que la lune va croître vers la pleine lune, vous allez nommer vos intentions. Donc, à la lune croissante, vous allez nommer vos intentions. Ensuite, ça se peut qu'au premier quartier de lune, vous sentiez une hésitation, un doute. Et quand vous arrivez juste avant la pleine lune, vous nommez encore vos intentions. Vous renouvelez vos désirs. Vous pouvez retourner à ce que vous avez écrit à la nouvelle lune. Et souvent, vous allez voir que c'est exactement ce que vous souhaitez. Souvent, à la nouvelle lune, on a une grande conscience, une introspection et une lucidité. Donc, on en profite. Et à la pleine lune, on dit merci. Alors, vous comprenez un petit peu le principe. Ensuite, quand la pleine lune va commencer à diminuer, on va tout simplement remercier encore. On partage un enthousiasme, on partage avec les gens. Et quand on tombe dans le dernier quartier de lune, on laisse aller. On pardonne, on dit merci et on laisse aller jusqu'à la nouvelle lune encore. Alors, vous comprenez un petit peu le principe. Je vous invite à profiter de la nouvelle lune pour penser à ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie. Pensez à comment vous aimeriez travailler avec cette énergie d'année 11, qui est une énergie de miracle et de magie. Je vais le dire encore et encore, je vais vous le répéter pendant toute cette année-là. Et comme on avance dans cette énergie-là, on commence à être pleinement dedans. Alors tout ce qui va arriver au fil de cette année-là, vous ne pouvez pas le prédire. Vous allez suivre le flot de cette année-là et juste lui faire confiance et avoir la foi et continuer à demander ce que vous souhaitez obtenir. Alors, je vous invite ceux qui souhaiteraient faire un tableau de vision, c'est l'occasion, avec la nouvelle lune et avec les journées qui suivent la nouvelle lune, de vous faire un tableau de vision. Si vous avez des projets communs avec des gens, c'est l'occasion de vous mettre ensemble, d'en discuter, de voir quelle est votre vision commune. C'est des moments parfaits pour ça. Et souvent, si on essaie de faire ça après la pleine lune, on se rend compte que ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas dans un moment où on doit clarifier les choses, on est dans un moment où on doit laisser aller les choses. Mais dans à partir de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, vous êtes dans un moment où vous pouvez demander. Alors, c'est un équilibre entre recevoir et demander. Je vais vous laisser sur mon petit retour par rapport au dernier épisode sur la clairsentience. Je sentais que c'était un sujet que je possédais tout de même, dans lequel j'étais à l'aise de parler, qui me concerne énormément, qui était la clairsentience. Donc, ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter, je vous invite à y aller si vous considérez hypersensible ou clairsentient, qui est un don de médiumnité, en fait, qui permet de ressentir les autres, de ressentir l'énergie autour de soi, de ressentir ses guides ou une énergie intangible. J'ai eu plusieurs beaux commentaires. J'ai fait des rencontres, j'ai découvert des nouvelles personnes suite à cet épisode-là. Alors, merci. Je suis énormément reconnaissante et j'ai l'impression d'avoir servi, d'avoir aidé beaucoup. Et c'était mon but, comme je vous avais dit, je souhaitais passer réellement aux choses sérieuses avec cet épisode-là. Et je sens que ça a fonctionné. Et je vous avais dit aussi que je lançais un groupe de partage. C'est un groupe privé sur Facebook, en fait, qui s'appelle Claire Potentiel. Donc, il suffit d'aller sur la page Facebook de La Chamane. Ça s'écrit pareil comme le nom du podcast. Et vous allez voir dans les groupes, dans l'onglet groupe, vous allez avoir accès à Claire Potentiel. Vous avez aussi accès si vous allez sur ma page Facebook professionnelle qui s'appelle Amy Gale. Donc, c'est facile à trouver. Si vous ne trouvez pas, envoyez-moi un message à partir d'une de ces deux pages-là et je vais vous aider. Même chose si on connecte ensemble par Instagram, parce que récemment, j'ai eu plusieurs rencontres extraordinaires par Instagram. C'est ça, par rapport aux gens d'Instagram, vous pouvez toujours m'envoyer un message si vous avez du mal à trouver sur Facebook. Bienvenue dans ce groupe-là pour les gens qui s'intéressent. On est déjà un bon petit nombre d'un peu partout dans la francophonie et notre seul but, en fait, c'est de pouvoir partager sur ce qu'on vit au niveau don psychique, donc tout ce qui touche à la médiumnité. Alors que vous ayez un don de voyance, de clairaudience ou de clairsentience, comme moi j'ai beaucoup, ou de clairconnaissance, de claircognance qu'on appelle, que vous ayez déjà vécu, c'est pas obligé d'être très poussé, mais si vous avez déjà eu l'impression d'avoir vécu une expérience comme ça, ça peut être un très bel espace pour aller valider ça ou tout simplement trouver des gens qui vont vous comprendre. Donc parfois, on se sent perdu, on se demande si on est fou, si on a halluciné, si ça a un sens, tout ça, parce que on peut vivre, par exemple, énormément de synchronicité, comme je vous ai parlé dans les derniers épisodes que moi j'ai vécu, et se dire que tout ça, ce n'est qu'un hasard, mais au fil du temps, on se rend compte que tout est connecté, qu'on a des indices, qu'on reçoit des messages. Donc, si tout ça vous intéresse, si vous êtes avancé ou que vous êtes débutant, vous êtes tous bienvenus dans le groupe Claire Potentiel sur Facebook. Et ça me fait plaisir en plus de pouvoir partager avec des auditeurs, ce qui me fascine parce que il y a si peu de temps, le 21 décembre, c'était mon premier épisode. Avant ça, ce mouvement-là, la chamane n'existait pas. Et là, il y a une communauté qui se construit doucement. Ça me fait jubiler. Je suis énormément reconnaissante et j'ai le cœur qui rayonne énormément quand je pense à ça. C'est au-delà de mes rêves les plus fous, même si on s'entend que c'est loin d'être une communauté gigantesque, c'est un début, mais juste le fait qu'il y ait un début me fait jubiler et me fait voir tout ce qui est possible, en fait, pour l'avenir. Donc, bienvenue, je suis toujours très heureuse de communiquer avec vous. Ne vous retenez pas, c'est très important, agissez avec votre cœur, avec votre spontanéité. Allez-y, c'est la chose que je prône, c'est mon message de base, c'est l'authenticité et d'être soi et d'oser être emballé et enthousiaste, c'est ça qui va vous nourrir dans la vie pour tout. Donc, n'hésitez pas quand vous avez envie de me contacter suite à un épisode. Vous savez à quel point ça me rend heureux, c'est mon carburant. C'est ça qui me nourrit pour faire les épisodes. Votre retour et vos beaux mots. Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit « on dirait que tu parles de moi » ou « ça clarifie ce que je ressens » ou « on dirait que c'est moi qui parle », ça me fascine à chaque fois parce qu'on a l'impression d'être seul et finalement, on se rend compte qu'on est plusieurs
à se ressembler, à vivre des choses qui sont presque semblables au fond. Je me dis toujours qu'on est tellement sur la Terre que c'est sûr qu'on est des centaines à être pareils finalement. On est tous différents, on a tous nos subtilités, notre unicité, mais on est des centaines qui vivons semblablement la même chose, qui ressentons la vie de la même façon. Donc si on peut se trouver, ça va nous aider à comprendre qu'on appartient à quelque chose, qu'on est connecté à quelque chose et qu'on n'est pas... Parce que moi, j'ai longtemps eu l'impression d'être tout simplement quelqu'un qui était toujours à l'extérieur des choses, qui était toujours en périphérie parce que je connectais pas assez avec les gens. J'avais l'impression que j'avais aucun lieu d'appartenance. Et surtout avec ce podcast-là, avec les rencontres que je fais, ben ma famille, mon lieu d'appartenance grandit de jour en jour, de semaine en semaine. Et ça me permet d'être 100% moi-même, en fait. Parce que maintenant, je vois que je suis pas juste un extraterrestre qui doit se forcer pour ressembler aux autres. Et ça, c'est super important d'arriver à être avec des gens qui nous font nous dire « Oh mon Dieu, mais ce que j'ai vécu en dedans de moi, ce que j'ai pas été sûre pendant des années de... Est-ce que j'ai raison d'être comme ça finalement? » Quand je vois une personne, ça commence par une personne, je me dis « Ah, peut-être. Mon Dieu, ça fait tellement du bien, ça va tellement... réconforter toutes ces années d'avoir l'impression d'être seule, si vous avez vécu ça. » Ça ne veut pas dire que vous l'avez vécu et je souhaite que vous ne l'ayez pas vécu, mais ceux qui ont vécu ça, cette espèce de déconnexion des autres, par rapport aux autres, quand on trouve la première personne, on capote, on a l'impression que c'est « Waouh, enfin un autre extraterrestre » et puis finalement on se rend compte qu'il y en a d'autres, qu'il suffit juste de trouver sa tribu, comme je dis souvent, qui est le terme anglais « find your tribe » que je trouve absolument extraordinaire et fort. Donc, il suffit juste de se rassembler. Et encore une fois, il y a des groupes qui servent à ça. Quand on s'écrit, si vous m'écoutez et que vous avez l'impression que je parle de vous ou que ça résonne, retenez-vous pas, c'est un appel à justement connecter ensemble parce qu'on a des esprits similaires. Donc, c'est super important. C'est ce qui va faire que vous allez gagner de la force, vous allez gagner du courage, de l'amour de vous-même, parce que vous allez avoir une confirmation que pendant tout ce temps-là, vous n'étiez pas en train de vous tromper, que vous avez une raison d'être qui vous êtes, et quand vous voyez d'autres personnes qui sont du même type, bien, ça confirme que vous avez votre place ici, vous avez votre raison d'être ici. Encore une fois, merci énormément d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite encore à connecter. Alors, je vous aime. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je suis toujours très reconnaissante. Et on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À bientôt.